Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre au service de la Radio de la Paix.
Comment établir une infraction des viols? Nous savons que de nombreuses femmes et jeunes filles sont victimes des viols. En République démocratique du Congo, cette pratique est considérée par l'ONU et par d'autres organisations comme une arme de guerre. Le viol est considéré comme une arme de guerre. Et dans bien de cas, le viol est commis par des hommes en uniforme et les victimes ne savent pas souvent comment obtenir réparation. Alors c'est quoi? Qu'est-ce que le viol? Quand est-ce qu'on peut établir qu'il y a eu viol? Comment conserver les preuves? Qu'y faire? Qui contacter? Comment se soigner? Voilà. Autant de questions qui vont trouver des réponses dans cette émission. Aujourd'hui, avec nos invités, je commence avec Dr Martin Bouillot, médecin au département de chirurgie de l'hôpital de Kitambo. Encore une fois, bonjour docteur.
Bonjour Jérémy.
Alors, c'est quoi le viol?
Le viol, c'est une agression sexuelle. Et toute atteinte commise sexuellement avec violence ou contrainte, par menace ou surprise. L'OMS définit un viol comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. Et cela sans consentement de l'autrui.
Voilà, lorsqu'il n'y a pas consentement d'autrui, donc il s'agit d'un viol.
Ouais.
Voilà. Et quand est-ce qu'on peut établir qu'il y a eu réellement un viol?
Pour établir qu'il y a eu réellement viol, là, il faut passer par les instances judiciaires. Parce que nous, du côté médical, nous nous limitons à la prise en charge médicale. Mais quitte à établir s'il y a eu viol ou pas, là, il faut passer par les instances.
Et généralement, comment s'est fait la prise en charge des cas de viol?
Le cas de viol, quand une victime arrive chez nous, dans nos services, nous la recevons comme tout autre malade. Il y a une anamnèse qui est faite, et la victime vous dira ce qui lui est arrivé.
Mais il semble que généralement, les victimes ne parlent pas trop en dessin du viol, non?
Il faut essayer de le mettre à l'aise. Parce que quand ils arrivent, ils sont traumatisés, quoi. Il faut savoir comment s'y prendre pour lui faire parler. On l'accueille, on la met à l'aise, et puis on essaie de lui demander ce qui s'est passé, et comment c'est arrivé. Et là, elle vous dira. Et après avoir entendu le récit de la victime, nous passons à l'examen physique. Après avoir examiné, il y a des examens qui sont faits, des examens paracliniques qui sont faits. Et après l'examen clinique, les examens cliniques plutôt, nous leur donnons les médicaments. Comme chez nous, c'est la prise en charge médicale, on leur donne des médicaments.
Généralement, vous donnez quel produit?
Nous donnons une prévention contre le VIH. Et cela, il faut que la victime arrive, en tout cas, dans les 72 heures qui suivent l'incident. Parce que si elle arrive après, on ne pourra plus prévenir le VIH. Il faut qu'elle arrive dans les 72 heures. Là, on donne un kit PEP pour la prévention contre le VIH-SIDA. Et si elle est en période de fertilité ou dans la période où elle peut concevoir.
Pour prévenir une grossesse
Prévenir une grossesse non désirée, on lui donne un contraceptif. Et c'est là qu'il faudrait qu'elle arrive dans les 120 heures qui suivent l'incident, au plus tard 5 jours après. Et il y a aussi une antibiothérapie qui lui est donnée en prévention des IST, donc des infections sexuellement transmissibles. Après avoir donné ces médicaments, nous leur accordons des rendez-vous. Et à celles qui ont reçu le PEP kit pour la prévention contre le VIH, elles nous revoient une semaine après pour évaluer s'il y a eu des effets secondaires, et voir si la malade n'a pas supporté le produit ou quoi, si on peut changer de médicament.
D'accord. Je reviens à vous tout à l'heure, docteur Marle. Il faut donner aussi la parole à, au colonel Joseph Makelele. Il est avocat général militaire à l'auditorat militaire. On accuse souvent les hommes en uniforme d'être souvent à l'origine des viols, comme colonel.
Merci beaucoup. J'aimerais d'abord compléter la définition qui est plus ou moins médicale, mais j'aimerais compléter par rapport à ce que prévoit le législateur congolais. Le législateur congolais signale qu'il ne suffit pas d'une pénétration totale. Le législateur congolais précise même superficielle. Donc la pénétration ne peut pas être totale, même superficielle. Un deuxième élément, c'est par rapport à l'auteur de viol. Cela importe peu. Ça peut être un homme comme une femme. Il en est de même pour la victime, ça peut être un homme comme une femme. Et j'aimerais également ajouter par rapport au consentement. Le consentement est inopérant quand il s'agit des mineurs, que le mineur ait consenti ou pas. C'est là inopérant, la personne sera, auteur sera poursuivie pour viol. Et quant aux orifices, il ne s'agit pas, depuis 2006, le viol n'est plus une infraction virile. C'est-à-dire qu'un homme comme une femme peut commettre. Et par orifice, il ne s'agit pas seulement de la voie vaginale, mais également orale, buccale et donc anale et tout autre orifice.
Oui. Alors, on a suivi que le viol est considéré comme une arme de guerre. Ce sont les hommes en uniforme qui sont souvent des auteurs. Alors, comment arriver à établir une infraction de viol?
D'abord, j'aimerais préciser que c'est dans l'imaginaire, on estime que ce sont les hommes qui l'utilisent. C'est vrai que on a constaté que certains groupes armés utilisent le viol comme arme de guerre pour terroriser la population, pour terroriser, démoraliser même les militaires d'en face. Et cela a été épinglé ainsi et on le constate et nous luttons pour cela. Mais pour le constater, pour le poursuivre, bien entendu, il faut d'abord dénoncer les faits. Donc, on constate, d'abord, on commence par la dénonciation auprès des organes habilités.
Oui.
Et c'est ainsi qu'on déclenche les poursuites à l'égard des présumés auteurs du viol.
Voilà, donc il faut commencer par la dénonciation. Or, dans le cas du viol, les victimes ont du mal à parler, ne s'expriment pas facilement là-dessus.
Et c'est là, justement, l'un des problèmes majeurs, parce que non seulement les victimes, comme on parle dans la possibilité d'armes de guerre, c'est dans le milieu à conflit armé et il n'est pas facile que les victimes atteignent les organes opérateurs judiciaires pour dénoncer ou pour se plaindre. Donc c'est déjà un des problèmes majeurs. C'est là que nous enregistrons plus le travail en amont de chefs coutumiers et même des ONG qui recueillent les éléments et signalent aux organes judiciaires pour des poursuites à l'égard des présumés auteurs des faits.
Alors, s'il faut dénoncer, qui allait contacter directement, ou quel est l'organe à contacter pour ce genre de situation?
Les organes à contacter, d'abord, en premier lieu, c'est bien entendu les officiers de police judiciaire, parce que eux qui ont cette matière travaillant sous l'autorité de l'officier du ministère public, c'est le premier maillon. Mais on peut également, en amont, contacter les ONG qui ne sont pas dans le circuit judiciaire public. On contacte les ONG qui alors contactent les OPJ ou directement les parquets. On peut également contacter les chefs coutumiers quand c'est en milieu rural. On peut contacter également directement les autorités politiques administratives ou alors directement les parquets qui peut ainsi instruire en matière de viol.
Bien, comment établir une infraction de viol, le sujet vous intéresse, appelez-nous au 081-890-63-94, écrivez-nous également à service@radiocapi.net.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours, les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peintures ou photos, les expositions à voir. Les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Laissez-vous guider.
Comment établir une infraction des viols? Docteur Martin Boyo, médecin au département chirurgie de l'hôpital Kitambo, est notre invité, avec le colonel Joseph Makelele. Alors, colonel, je reviens à vous. Comment conserver les preuves d'un viol?
Là, c'est l'un des défis majeurs en matière de viol, la conservation des preuves, la préservation des preuves, parce que après la dénonciation, en principe, au moment de la commission des faits et que l'on rencontre une ONG ou alors l'autorité judiciaire, c'est à ce moment-là qu'on constate les faits. Mais pour conserver les preuves, il faudrait que la personne victime, premièrement, parce que nous orientons vers le médecin qui doit constater. Pour l'orienter vers le médecin, il faudrait que la personne elle-même, en cas de viol, que la personne elle-même n'ait pas, par exemple, pris un bain. Mais souvent, nous constatons que les personnes victimes trouvent que c'est une sueur, commence déjà à pas
prendre.
Qu'il
faut éliminer rapidement.
Et là, ça élimine déjà les preuves et ça pose problème. Donc, la première réaction pour conserver, c'est garder la personne en l'état et l'acheminer vers le médecin qui va constater physiquement s'il y a eu ou non viol, parce que c'est l'un élément majeur en matière de preuves.
Alors, mais, docteur Martin, comment s'est fait les constats lorsque la personne arrive directement chez vous, il y a eu viol, et elle arrive, comment vous arrivez à avoir des preuves? Comment vous faites pour avoir des preuves, je veux dire?
Merci pour la question. Si la victime arrive à temps, donc avant qu'elle ne prenne un bain, là, il y a moyen de recueillir le sperme. Et s'il y a du sperme, on le construit dans un flacon qu'on va garder dans un réfrigérateur. Et puis, on peut aussi recueillir s'il y a du sable, du sable ou bien de brandy, des herbes, si ça s'est passé dans la brousse ou quoi, on peut le recueillir. Là, on met un linge blanc ou bien du papier par terre sur lequel la victime va se pousseter, afin que l'on puisse recueillir le sable ou le brandy d'herbe qui était sur elle. Et là, on garde. Ou bien le vêtement. On peut prendre le vêtement qu'elle avait, des sous-vêtements, du soutien, du slip, ou voire même le bijoux collier. Ça, on peut garder à titre de preuve. Et ça se conserve dans les armoires. Pour qu'on puisse présenter à qui de droit.
Voilà, ça se conserve dans les armoires pour vous allez les présenter à qui de droit. Nous avons déjà des auditeurs en ligne. Les auditeurs vous écoutent et ils appellent pour poser des questions. Soulous nous appelle des Kalemi dans la province du Katanga. Ingopa est à Kananga dans la province du Kasaï occidental. On va accueillir Soulous des Kalemi. Bonjour.
Bonjour Monsieur Joli Daniel Kachama. Bonjour aussi aux invités qui sont sur le plateau de Radio Kapi.
Quelle est votre question?
Bon, je voulais un peu poser la question parce que je trouve un peu le sujet contradictoire par rapport à l'annonce que vous avez faite.
Oui.
Normalement, selon vous, selon le sujet, on devrait parler du viol, mais là, je sens qu'on parle plus de violence sexuelle. Alors, je ne sais pas un peu si les invités peuvent nous éclaircir quelle est la différence qu'il y a entre le viol et la violence sexuelle. C'est un peu ça, ma préoccupation.
D'accord, merci. Ingopa, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour aussi à tous les auditeurs de la Radio Kassi. Hein.
On vous écoute.
Oui, j'avais trois petites questions, mais la première vient d'être posée par mon prédécesseur. Je vais poser les deux qui sont restés. Hein. Bientôt, là, l'invité venait de dire, à cas de violence sexuelle, il a fallu contacter soit le parquet, soit l'OPJ, ou soit le chef coutumier. Mais nous avons des cas qui sont arrivés dans des villages. Hein, dans des villages. Vous voyez quand même, c'est par exemple l'enfant d'un chef coutumier qui a commis cette violence, la violence sur une fille d'autrui. À ce moment-là, la victime va se plaindre auprès de qui? Est-ce le chef coutumier? Parce que si la victime partait chez le chef coutumier risque de gérer ce problème-là et que le problème va rester au niveau du village. Mais à qui est-ce que la victime peut maintenant contracter à ce moment-là? La deuxième question était celle de savoir, concernant les orifices, hein, j'avais voulu un peu demander à l'invité s'il peut quand même nous expliquer à long et à large. Parce que lorsqu'on parle de violence sexuelle, on ne voit que l'acte sexuel. Mais bientôt, là, il vient encore d'ajouter un autre aspect concernant les orifices. Est-ce qu'on peut aussi parler de violence à ce moment-là? Voilà un peu mes deux questions que j'avais voulu poser à l'invité.
D'accord, merci. Colonel Joseph, vous avez la parole.
Merci. Je précise d'abord par rapport au viol et violence sexuelle que le viol rentre dans la grande catégorie des violences sexuelles. Et dans les violences sexuelles, nous avons non seulement le viol, nous avons l'attentat à la pudeur, nous avons le harcèlement sexuel, l'esclavage sexuel, la prostitution. Donc, il y a plusieurs violences sexuelles et nous avons épinglé les cas du viol. Quand,
donc il n'y a pas confusion comme
justement, c'est une précision que le viol rentre dans la grande catégorie, dans le groupe de ce que nous appelons violence sexuelle ou agression sexuelle.
Voilà.
Et quant à la dénonciation au niveau de village, c'est vrai que quand on n'a que le chef de village...
Et que c'est son fils qui a commis le viol.
Effectivement, ce sont des cas que nous rencontrons d'impunité, parce que finalement, la personne n'a plus d'autres moyens, et c'est plusieurs mois après que la personne vient dénoncer auprès d'une ONG ou d'une autorité qui passerait par là les faits subis. Donc c'est vrai que c'est une entrave, c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de campagnes en la matière. Et quant aux orifices, la troisième préoccupation de orifices, effectivement le droit congolais a une interprétation extensive du viol. Avant 2006, le viol était limité seulement à la partie vaginale et c'était l'homme qui ne pouvait que commettre le viol en l'égard d'une femme. Et actuellement c'est étendu, c'est-à-dire quand on parle d'orifice, il faut entendre tout orifice humain. Donc nous avons la voie vaginale, la voie anale, la voie buccale, nous avons par les nez, nous avons par les oreilles.
Les oreilles, donc, oui.
Tous les orifices humains font partie des orifices qui peuvent être sujets au viol.
Alors docteur Marc, vous avez dit, lorsque la victime arrive, vous prélevez les preuves, vous donnez les traitements, elle rentre à la maison et elle doit revenir combien de temps après? 48 heures après?
Non, une semaine après.
Une semaine après. Et quand elle revient, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là?
Quand elle revient, on évalue comment... quels sont les effets du traitement qu'elle a reçu. Donc, parce qu'il y a de ceux-là qui réagissent surtout aux antirétroviraux. Là, on va lui demander qu'est-ce qu'elle a ressenti.
Les effets secondaires du produit.
S'il n'y a pas eu d'effets secondaires néfastes, elle continue son traitement et elle reviendra dans un mois. Parce que pour les antirétroviraux, le traitement c'est pour un mois. Et des autres,
même si la victime n'a pas contracté le sida ou qu'elle n'a pas eu la maladie avant, vous donnez quand même les antibiotiques.
On donne. Oui, c'est une prévention.
Voilà.
Et pour les antibiotiques, c'est pendant une semaine. Et après avoir pris le médicament, nous les revoyons dans un mois. Un mois après, on va refaire les examens de contrôle. S'il n'y a pas de problème, la victime rentre pour nous revoir 3 mois après. Dans 3 mois, on refait encore les examens. S'il n'y a pas de problème, elle nous reverra dans 6 mois. Et quand il n'y a pas d'autres problèmes, on sort la victime du programme.
D'accord. On va accueillir Delous qui nous appelle de Kasumbalesa. Delous, bonjour.
Oui, bonjour.
On vous écoute. Hein. Quelle est votre question?
Oui, je vais poser la question à l'invité lorsqu'il parle de Dieu, comment prendre... la personne violée en charge. Moi, je lui pose la question de savoir combien de temps faut-il pour prendre la personne violée en charge. Ça, c'est la première préoccupation. Et la deuxième préoccupation, comment est-ce qu'on peut savoir que la personne est violée? C'est ça, c'est que c'est
mes préoccupations. D'accord. Docteur Marthe, qu'est-ce que vous pouvez dire à Delous?
Pour savoir combien de temps faut-il prendre la victime en charge? La victime, chez nous, nous prenons la victime en charge pendant 6 mois après l'incident. Elle est prise en charge pendant 6 mois. Parce que quand elle vient, on lui donne des médicaments, elle aura des rendez-vous, et durant ces rendez-vous, il y aura des examens de contrôle qui seront faits. Et 6 mois après, si nous voyons qu'il n'y a pas autre problème, on les sort du programme. Si nous voyons qu'après 6 mois, il y a soit positivation du test de VIH, nous la confions à la cellule qui prend en charge le personne vivant avec le VIH.
Le VIH. Et sa deuxième question, c'est de savoir comment savoir qu'une personne a été violée.
Comment savoir qu'une personne a été violée?
Oui.
D'abord, c'est le récit de la victime. Elle dit non, j'ai subi tel incident. Et puis, après, il y aura l'examen clinique. À notre examen, nous verrons s'il y a eu réellement ce viol.
Aimé nous appelle depuis Siro, Sadi et Tamatadi. Aimé, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour vraiment aux invités.
On vous écoute.
Oui, j'ai qu'une seule question de savoir comment peut-on porter plainte à une personne qui a commis les viols et qui est portée disparue. Donc, à une personne inconnue qui a commis le viol, comment peut-on porter plainte à cette personne-là?
Merci, Aimé. Sadi, vous êtes à Matadi. Bonjour.
Salut aussi les invités. J'ai une préoccupation, peut-être deux. Peut-être je commencerai à dire, vous savez, le problème des viols, il est difficile à éclaircir ça vraiment facilement. Si peut-être des cas aux États-Unis, ça a posé des problèmes, et à forcerie dans ce pays où il n'y a presque rien comme structure. Je voudrais aussi dire peut-être à l'invité, là, celui le militaire, le viol n'est pas, ou soit au docteur, le viol n'est pas seulement parce que vous avez trouvé des traumatismes. On peut violer une femme, mais peut-être les rapports s'est fait convenablement, mais c'était pas avec le consentement de la femme. Peut-être la femme a eu peur parce que vous avez une arme, ou peut-être parce que y a une pression peut-être au niveau du travail. La femme te laisse faire, mais c'est un viol parce que ce n'est pas sous son consentement. Alors là maintenant, pour poser ou tirer une conclusion que c'est un viol au niveau du tribunal, c'est pas facile. Parce qu'il n'y a pas de traumatisme chez la femme. Et puis, deuxième chose, tout acte sexuel est traumatisant. Peut-être que le docteur ne va pas nous contredire. Chaque acte sexuel est traumatisant.
Oui? Ça dit, quelle est la question?
Oui, ma question est de savoir si maintenant une femme a été violée où il n'y a pas eu de traces, comment tirer la conclusion que réellement c'était un viol?
D'accord. Merci. Docteur, qu'est-ce que vous pouvez dire à Sadi Ngembo? Les rapports s'est passé sans traumatisme. Maintenant, comment établir les preuves?
Nous allons nous baser sur les récits. Parce que le viol, même au niveau conjugal, on peut parler d'un viol. Le marié, quand la femme n'est pas disposée, que le mari la prenne avec force, là, c'est un viol. Et pour comment dire que c'est un viol?
Vous allez vous baser sur les récits de la victime. Oui. D'accord. Je reviens au colonel Joseph Makelele. La question des aimés, comment porter plainte contre un inconnu, une femme qui a été violée par une personne qu'on ne connaît pas. Alors à ce moment-là, comment procéder?
Justement, en matière de plainte contre inconnu, contre X, on doit effectivement porter plainte, expliquer dans quelles circonstances l'agression a eu lieu, dans quel environnement, et on explique, au moins ça déclenche les mécanismes. Si on a des éléments qui peuvent permettre l'identification de la personne, on peut le signaler que la personne était habillée de telle manière, la personne s'est rendue à tel lieu, et ça déclenche les enquêtes qui peuvent finalement permettre un jour, si pas immédiatement, mais quelques temps après, à identifier la personne. Donc quand on est victime d'un tel cas, on doit décrire tout ce qui, dans quelles circonstances et que l'événement a eu lieu. Quant à la préoccupation sur le viol domestique, donc le viol que madame vient de signaler, docteur, effectivement, là c'est effectivement encore un autre débat, comment les constater. Effectivement, on doit... La personne, il y a une place déterminante en matière de viol du témoignage de la personne victime. Parce que les viols se commettent souvent en intimité, que ce soit dans la rue ou dans un autre milieu, ben, il n'y a pas beaucoup de témoins. Et il y a une place prépondérante pour la personne victime. Et c'est son récit qui permet à ce qu'on puisse bien orienter.
Et si la victime porte un faux témoignage?
Là, bien entendu, on se retourne contre la victime parce qu'il peut également s'agir d'un faux témoignage ou d'une fuite en avant. On le saura après les enquêtes.
Mais on a l'impression que souvent, il y a l'impunité en matière de viol. Les hommes en uniforme qui violent les femmes, est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions, colonel?
Effectivement, les statistiques prouvent que, effectivement, les juridictions militaires et les juridictions de droit commun sanctionnent sévèrement toute atteinte à cette intégrité que nous appelons viol. Et je peux donner les cas récents, même les hauts responsables ont dû subir la sanction judiciaire. Il y a un général qui, le mois passé, ce mois de novembre d'ailleurs, a été condamné à 10 ans par la haute cour militaire. Et récemment également, il y a un commissaire supérieur adjoint à Kananga qui a été condamné pour viol sur mineur. Donc effectivement, il y a des cas, pour donner seulement le plus récent, il y a des cas, même les hauts responsables ne sont pas épargnés par... l'épée judiciaire.
Mais c'est des cas minimes par rapport au grand nombre des militaires qui commettent des viols, ou qui ont eu à commettre des viols.
Il faut d'abord dénoncer. Donc le premier pas, la première étape, c'est la dénonciation, porter plainte, c'est alors qu'on déclenche. Souvent on entend parler de viol, mais à la cité, mais le pouvoir judiciaire n'est pas saisi. Donc quand le pouvoir judiciaire est saisi de ces cas, avec tous les éléments qu'il apporte, il y a sanctions qui s'en suivent.
Mais si le viol est commis par un militaire, un homme en uniforme, comment procéder? Quelle est la procédure pour, il faut aller directement à l'auditoire militaire ou pas?
Exactement. La procédure est identique à celle pour les juridictions de droit commun. Aller vers les juridictions militaires ou aller à la police et qui vont rapporter au parquet militaire, au auditorat, pour les poursuites diligentées en ce sens.
Archange nous appelle depuis Zéro. Elra est à Colosie. Archange, bonjour. Bonjour, Archange. Archange n'est plus en ligne. Elra, vous êtes à Colosie, bonjour. Elra de Colosie, bonjour.
Oui, j'ai une seule préoccupation. Je voulais demander par rapport aux étudiantes. Est-ce qu'on peut parler des viols quand un assistant demande à une étudiante de coucher pour réussir? On peut parler de viol par rapport à ça.
D'accord. Est-ce qu'on peut parler de viol quand l'assistant demande à une fille de coucher avec elle, comme ça, elle va passer des classes?
Non, là, ce n'est pas le viol parce qu'il y a aucun acte matériel de viol.
Mais harcèlement, on peut parler.
On peut parler justement de harcèlement parce qu'il abuse de sa position, de son autorité pour solliciter. Donc même sans la commission de l'acte que l'on pourrait qualifier de viol, mais déjà il y a harcèlement. Et pour le harcèlement, il y a une condition préalable. Il faut nécessairement porter plainte. Donc pour le viol, le parquet peut se saisir d'office dès qu'il est au parfum des faits. Mais pour le harcèlement, il y a une condition préalable. Il faut porter plainte devant l'OPJ ou devant les magistrats.
Bien. Madame Pacifique, vous êtes à Kinshasa. Bonjour. Désolé, elle n'est plus là en ligne. Elle va sûrement rappeler. Alors, si le viol a été commis par plusieurs hommes en uniforme, à ce moment-là, comment vous allez procéder pour mettre la main sur tous ceux qui ont commis ce forfait?
Là, il faut... Merci beaucoup. Pour cela, il faut distinguer deux hypothèses. Il y a le viol collectif, commis en temps de paix, et qu'on peut poursuivre comme viol selon la loi de 2006. Mais il y a également une autre hypothèse, le viol collectif, ou même le viol isolé, mais commis en temps de guerre. Là, c'est considéré comme un crime de guerre, et cela sera poursuivi comme crime de guerre selon le statut de Rome, mais par les juridictions nationales. Donc il faut distinguer les deux hypothèses de viol, commis en temps de paix ou en temps de circonstances exceptionnelles liées à la guerre.
Mais la sanction n'est pas la même.
Non, bien entendu, pour la sanction pour en temps de guerre, la sanction est un peu plus dure qu'en temps de paix.
Combien d'années dans
la selon le statut de Rome, le maximum, c'est la perpétuité, que nous appelons ici la perpétuité, donc la peine à vie. Mmh. Et pour en temps de paix, c'est jusqu'à 20 ans.
Jusqu'à 20 ans. Madame Pacifique est en ligne, depuis elle est à Kinshasa. Bonjour, madame.
Bonjour, monsieur. Bien.
On vous écoute.
Moi, j'ai dit que ça là. Vraiment, avec les positions, ça commence à tirer. Parce qu'il y a des gens là qui passent même avec des enfants de 2 ou 3 ans. Imaginez-vous, à 2 ou 3 ans, l'enfant se rendait avec ces images-là. Autant mieux punir ces gens-là, puis de tout le monde. Assassiner au moins, faire quelque chose de spectaculaire,
alors, madame, on n'a pas très très bien saisi. La communication n'est pas très très bonne. Si vous pouvez vous déplacer où vous êtes à côté de votre poste et récepteur, veuillez vous en éloigner. Et là, peut-être qu'on va saisir votre pensée clairement.
Je suis un peu loin.
D'accord, allez-y.
J'ai dit que c'est colonel. Autant mieux organiser. Et quelque chose de spectaculaire pour donner les sanctions aux gens qui commettent des choses. Par exemple, assassiner même, officiellement, et ça sera peu résoudre, parce qu'il y a des gens-là qui se passent avec des enfants de 2, 3, 4 ans, ceux qui vont utiliser toute leur vie, et leur enfant, pareillement, c'est un peu difficile à supporter. On ne sait pas là où on est dans une histoire de choses.
Alors, si je veux bien saisir votre pensée, vous dites que il faudrait peut-être sanctionner publiquement les fauteurs, ceux qui ont commis le viol, peut-être les tuer publiquement et ça va donner un exemple. Les autres rompeurs, ils vont plus commettre ce genre de situation. Colonel, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça?
Merci. J'aimerais préciser qu'effectivement, en matière de viol, quand nous procédons à l'instruction, d'abord, c'est sous le sceau du secret. Mais les audiences sont publiques, sauf bien entendu à la demande d'une des parties intéressées au procès, qui peut demander le huis clos. Et là, le juge ou d'office, le juge peut estimer par rapport à la protection qu'on doit assurer à la victime qu'il faut décréter le huis clos. Mais en ce qui concerne le prononcé est toujours public. Donc on saura que la personne a été effectivement sanctionnée. Mais dans certains cas, nous avons constaté que sur le plan pédagogique, il y a des victimes qui ont accepté. Sous couvert d'être bien protégé, et que l'audience ait lieu publiquement, et ça s'est passé récemment même à l'Est, plusieurs fois d'ailleurs à l'Est, et les personnes ont voulu que ça soit public pour défier, peut-être à leur manière, la personne auteur des faits. Donc pour cela, effectivement, il est assuré une publicité, sauf pour les besoins de sécurité, parce qu'il faut veiller également à la sécurité de la personne victime.
Mais l'idée d'exécuter publiquement les auteurs du viol.
Quant à l'exécution,
un exemple, c'est une sanction exemplaire.
La sanction déjà que le juge prend, déjà c'est une sanction déjà sévère, mais il n'y a pas exécution, les viols ne sont pas assortis de la condamnation à mort et exécution immédiate. Et actuellement, par la volonté politique, bien que certaines infractions soient assorties de la peine capitale, notamment un viol qui aboutirait jusqu'à la mort d'homme, il n'y a pas exécution parce que nous tenons compte également de certains impératifs de défense de la politique criminelle, donc il n'y a pas exécution.
Il n'y a pas exécution. Willy nous appelle de Kamina. Vous êtes également intéressé. Nous parlons du viol. Comment établir le viol? Une infraction de viol. Nous avons dans ce studio Dr. Martin Bouillon, médecin au département de chirurgie de l'hôpital de Kitambo et le colonel Joseph Makelele, avocat général à l'audit militaire. Nos invités sont là. Vous voulez participer, appelez au 081-890-63-94.
Pour s'informer, de plus en plus d'internautes choisissent RadioCapi.net. Chaque mois, vous êtes plus d'un million à nous suivre sur www.radiocapi.net et votre avis nous intéresse. Chaque jour, une question d'actualité est à la une du site, plusieurs propositions. Exprimez votre opinion. Écoutez les résultats de cette consultation sur l'antenne chaque jour à 8h45 et après les infos de 16h30 sur radiocapi.net.
Comment établir une infraction de viol? Willy nous appelle de Kamina. Bonjour Willy. Willy, vous êtes à Kamina, bonjour. Bien, il n'est plus en ligne. On va accueillir Rigobert de Kinshasa. Bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, l'invité.
On vous écoute.
J'ai une seule préoccupation. Il y a eu viol plus tard. Comment pourrez-vous juger ce cas?
Pardon, veuillez reprendre la question, Rigobert.
J'ai dit, il y a eu viol.
Oui.
2 ans plus tard.
Oui.
Maintenant, la personne est allée maintenant accusée. Comment pourrez-vous juger de tels cas?
Bien, merci, colonel. 2 ans plus tard, le viol a été commis et 2 ans plus tard, la victime va porter plainte.
Merci. Là, effectivement, il serait difficile de recueillir les preuves matérielles en matière de viol parce que le médecin peut expertiser, mais il n'y aura pas assez d'éléments par rapport au temps passé. Et là, c'est une place de choix qui est accordée au témoignage de la personne. Et par rapport au témoignage, il y aura effectivement vérification d'autres éléments, indices qui peuvent prouver à ce que la personne a commis les faits. Donc c'est vraiment une place de choix que le témoignage de la personne victime, elle doit renseigner le magistrat ou l'OPJ sur les circonstances et on procédera à la vérification par rapport à l'autoprésumé des faits qui va donner également sa version et si besoin confronter les deux positions pour dégager la vérité judiciaire.
Et ben, prenons le cas d'un couple qui a des problèmes, il n'y a plus de rapports sexuels depuis un moment, et le mari, un jour, voilà, il force sa femme à faire des rapports sexuels. À ce moment-là, on parle de viol ou pas? On peut parler d'un viol?
Il y a deux positions à la matière. On peut parler de viol domestique, tout comme on peut parler également des sévices. Et les sévices ne sont pas nécessairement un viol. Donc on peut considérer ça comme des sévices qui peuvent aller, si la femme estime que elle est dans une situation inconfortable, aller même jusqu'au divorce. Mais tout sévice n'est pas nécessairement un cas de viol.
Bien, docteur Marthe Mboyo, vous prenez en charge les victimes des viols. Et si, par exemple, la femme qui a été violée se retrouve avec des fissules, comment vous procédez pour la prise en charge?
Merci pour la question. Si une victime se retrouve avec des fissures vaginales ou anales, là, on peut le réparer. Donc, chirurgicalement, on le répare. Il y a même celles qui s'en sortent avec de fissures vésico-vaginales. Donc, il y a lacération au niveau de la vésique. Lacération qui part du vagin, vessie. Mmh. Et la femme va perdre les urines.
Il y a une communication entre ces...
Oui. Et là, on peut réparer chirurgicalement. On les répare.
Mmh. Mmh. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a souvent, on entend qu'il y a beaucoup de cas de fistules ailleurs dans les localités à travers le pays. C'est parce qu'il n'y a pas une bonne prise en charge, il n'y a pas de médecin pour les prendre en charge. Ou c'est le coût, hein. Elles n'ont pas assez de moyens pour se faire soigner.
C'est ça, c'est surtout pour le temps. Les moyens de se faire soigner. Mmh. Et puis les équipements, si on peut dire ainsi. À l'intérieur, les hôpitaux ne sont pas équipés. On peut avoir des médecins, mais sans équipement, en tout cas, c'est difficile de pouvoir de bien travailler. Mmh. Mais ici, on essaie quand même de nous battre pour pouvoir rendre service à nos malades ou nos victimes.
Est-ce qu'à l'hôpital de Kitamo, vous recevez souvent les victimes des viols, hein?
Oui. Donc, depuis qu'on a commencé, au mois d'octobre 2010, nous recevons des victimes chaque jour. Quand on a commencé, il y avait des statistiques de 20 victimes par mois. Et maintenant, nous atteignons dans les 70
par mois.
Comme le mois passé, on avait 78 victimes. Ces mois-ci, nous sommes déjà dans les 35 victimes.
Et toujours des viols perpétrés commis par des hommes en uniforme?
Pas toujours des hommes en uniforme.
Oui.
C'est toute catégorie. Il n'y a pas seulement les hommes en uniforme, que ce soit de religieux, de délinquants, de hommes d'affaires ou il y a même des hommes politiques.
Voilà, il n'y a pas que les hommes en uniforme. Alors on a l'impression, colonel, que les hommes en uniforme sont accusés. Souvent c'est en période de guerre qu'ils recourent au viol.
Exactement, souvent en période de guerre, mais également on peut rencontrer certains cas, même en période de paix. Par exemple, je prendrai un cas d'un policier qui est des gardes et qui a dans son cachet une détenue et qui abuserait d'elle. Donc ce n'est pas nécessairement en période de conflits armés, mais même en période de paix. Mais pour tous ces cas, effectivement, le premier pas, nous avons dit que c'est la dénonciation, mais nous avons constaté également lors de la dernière réunion stratégique, on a constaté que paradoxalement, contrairement à l'imaginaire congolais, ce sont plutôt les hommes qui ne sont pas militaires, que nous appelons souvent les civils, qui commettent plus le cas de viol que les militaires. Mais c'est vrai que quand il s'agit des militaires, ça frappe très fort parce qu'on sait que c'est une personne qui, par essence, qui doit protéger la population, protéger le territoire national, qui commet des actes qui sont contraires à la mission lui reconnue. Donc c'est pour ça que ça frappe très fort. Mais au-delà des militaires et des policiers, et nous avons constaté que les civils également commettent plusieurs infractions de violence.
Alors, j'imagine que la sanction pour les hommes en uniforme est beaucoup plus, elle est beaucoup plus sévère par rapport aux civils.
Évidemment, parce qu'ils ont une mission particulière en tant que fonctionnaires, ils sont sévèrement sanctionnés par rapport à cela.
Et quelle est cette sanction?
Elle est de 5 à 15 ans.
5 à 15 ans. Oui. Bien, merci docteur Marthe Mboyo, médecin au département de chirurgie de l'hôpital de Kitambo, et merci au colonel Joseph Makelele, avocat général à l'auditorat militaire. Merci et à la prochaine.
Merci, vous remercions.